Nous savons que l'Évangile est une bonne nouvelle parce qu'il annonce aux hommes la rémission de leurs péchés. C'est Jésus lui-même qui explique aux disciples que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Jésus a donc obtenu pour nous, auprès de Dieu, un salut que nous étions indignes et incapables d'acquérir. Cependant, tout lecteur de la Bible sait aussi que pour obtenir la rémission des péchés, donc pour être sauvé, Dieu a posé des conditions. Quelles sont-elles ? La première condition, qui est l'essence même de toute vie religieuse, c'est la foi. L'Épître aux Hébreux déclare fermement que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Jésus lui-même nous apprend que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une deuxième condition, qui découle naturellement de la première, c'est le repentir. Le repentir n'est pas un vague regret stérile, c'est reconnaître que l'on fait fausse route et c'est changer résolument de direction. C'est se découvrir malade, accepter le remède proposé et se soustraire désormais à la source d'infection. L'apôtre Paul annonce aux philosophes d'Athènes que, fermant les yeux sur les temps d'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Parallèlement, l'apôtre Pierre écrit que le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Une troisième condition est tout aussi clairement stipulée dans les Écritures, une condition qui est l'expression même de la foi et du repentir, nous avons nommé le baptême. Ce fut pendant les quelques heures qu'il avait encore à passer sur la terre que le Christ ressuscité donna à ses disciples la mission grande entre toutes d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Nous savons que les apôtres ont parfaitement respecté cet ordre de mission, car quelques jours plus tard, à ceux qui leur demandèrent « Que devons-nous faire ?», ils répondront « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Par ce baptême, nous entendons évidemment le rite tel qu'il était pratiqué au temps des apôtres, c'est-à-dire l'immersion du croyant dans l'eau au nom des trois personnes de la divinité. La Bible ne connaît d'ailleurs pas d'autre forme de baptême. Le mot baptême signifie étymologiquement immersion. Nous avons donc trois conditions essentielles auxquelles est rattaché le salut ou la rémission des péchés, la foi, la repentance et le baptême. Notons tout de suite qu'apparemment, la foi et le repentir ne se situent pas au même niveau que le baptême. On comprend que la rémission des péchés soit promise à ceux qui ont la foi et qui se repentent sincèrement, mais on semble saisir plus difficilement le fait que le baptême soit lui aussi une condition du salut. Cette réticence est louable au départ. On veut à tout prix éviter de faire du salut une chose à mériter. Et le baptême comporte le danger de ressembler à une œuvre de mérite. Mais est-ce là une raison suffisante pour l'exclure définitivement du plan du salut? Ou ce qui est pire, pour le réduire à un simple rite auquel il n'est pas nécessaire de se conformer? Quoi que nous en pensions, le Seigneur a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Et c'est parce qu'il a entendu ce commandement de la bouche même du Christ que Pierre dit aux habitants de Jérusalem « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés ». Il y a concordance parfaite entre le commandement du Christ et celui de Pierre. Le baptême est bel et bien une condition du pardon, et je me demande par quelle jonglerie on peut l'éliminer du plan du salut. D'ailleurs, cette condition est-elle tellement exceptionnelle? Est-il tellement inhabituel dans l'histoire de la révélation que Dieu demande à l'homme de faire quelque chose de physique pour obtenir sa grâce? Ouvrons ici une parenthèse, ainsi que notre Bible, pour prendre quelques exemples concrets. Souvenons-nous de Naaman le Syrien. Le récit de sa merveilleuse expérience figure au second livre des Rois, chapitre 5. Naaman était lépreux. Ayant entendu dire qu'en Samarie un homme pouvait le guérir de sa lèpre, Naaman s'y rend en grande pompe, muni de nombreux cadeaux. L'homme qu'il venait voir n'était autre qu'Élisée, le prophète. Chemin faisant, Naaman imaginait déjà comment les choses allaient se passer. « Il sortira vers moi, se disait-il, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place, et me guérira. » Mais au lieu de cela, que lui dit le prophète ? « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Pourquoi une telle prescription ? Pourquoi 7 fois au lieu d'une ? Et pourquoi précisément dans le Jourdain ? Les fleuves de Damas ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Aux yeux du grand Naaman, cet ordre du prophète était à la fois humiliant et saugrenu. Notre attitude ne ressemble-t-elle pas étrangement à celle du Syrien lorsque nous nous refusons à admettre que le baptême est une condition à la purification de nos âmes ? Naaman aurait-il été purifié de sa lèpre s'il ne s'était pas finalement conformé à l'ordre de Dieu ? Nous sommes prêts à admettre que non, sans pour cela reconnaître aux eaux du Jourdain une vertu miraculeuse. Réfléchissons aussi au cas de l'aveugle de naissance. Lorsque Jésus le vit, il eut pitié de lui et le guérit. Seulement, au lieu de le guérir spontanément, immédiatement, comme il le faisait habituellement lorsqu'il rencontrait des malades, il prit un peu plus de temps. Il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». Pourquoi ce rituel qui nous paraît superflu ? Un seul mot, un seul regard du maître aurait suffi pour rendre la vue à ce malheureux. Y avait-il dans cette boue une mystérieuse vertu curative ? Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. L'aveugle qui avait été guéri ne savait qu'une chose. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. C'est ainsi que le Seigneur avait choisi de le guérir. Quelques années plus tard, un nommé Saul de Tarse, aveugle lui aussi, et pécheur par surcroît, entendra un commandement qui est comme un écho des paroles du Christ. « Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Prenons un troisième exemple, celui des Israélites en Égypte. Nous sommes à la veille de leur départ. La dernière plaie va s'abattre sur l'Égypte. Elle frappera tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Pour éviter que la mort ne frappe aussi le peuple élu, chaque famille devra sacrifier un agneau. L'ordre était précis. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Dieu n'était-il pas capable de reconnaître les siens sans un signe extérieur d'identité ? Ces 3 marques sanglantes sur chaque maison étaient-elles indispensables pour éviter la mort ? Toutes ces questions sont superflues, car nous nous trouvons ici, comme dans le cas de Naaman et de l'aveugle, devant une prescription de Dieu bien précise qui appelle une obéissance totale. Lorsque nous appliquons ce raisonnement à la question du baptême, nous nous apercevons que rien ne nous autorise à en minimiser la portée dans le plan du salut. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tel est le commandement et tel nous devons l'obéir. Rejeter le baptême pour la rémission des péchés, c'est exclure arbitrairement un moyen d'expression choisi par Dieu, pour la simple raison qu'il ne convient pas à notre façon d'envisager le salut. C'est comme si les Israélites avaient dit « Dieu n'est-il plus capable de nous reconnaître ? Lui faut-il une étiquette ? D'ailleurs, pourquoi du sang sur les 2 poteaux et sur le linteau ? Nous n'en mettrons que sur les portes. C'est tout aussi visible. » Considérons le baptême de Jean-Baptiste, le précurseur. Il allait dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ce baptême de Jean-Baptiste était orienté vers l'avenir, vers le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était une ordonnance symbolique sans doute, mais qui avait déjà valeur de consécration. Jésus dit lui-même de Jean-Baptiste que tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont donné raison à Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Jésus venait de montrer qu'en refusant le baptême de Jean, ils avaient tout rejeté. Dans cette prise de position en faveur du baptême, nous ne voulons pas donner aux eaux du baptême une valeur miraculeuse qui purifierait le pécheur par le seul fait de son contact avec l'eau. Nous avons insisté sur le fait que le baptême est un moyen d'expression choisi par Dieu. Un moyen d'expression de quoi ? De la foi en la résurrection du Christ et d'un profond repentir. Isolé, le baptême est un acte vide de sens. C'est une comédie. Le baptême ne peut intervenir efficacement dans le salut de l'homme que dans la mesure où il constitue un acte de repentir et de foi. C'est pourquoi la Bible ne connaît pas le baptême des enfants. C'est là une institution purement humaine et illégitime. Dans la Bible, le baptême n'est jamais séparé de la foi. Ils sont même indissociables. Ce sujet n'est jamais controversé dans les écrits apostoliques. Paul rappelle aux chrétiens de la Galatie « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Et il ajoute aussitôt « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ». Dans son épître aux Romains, Paul décrit le baptême comme un acte d'adhésion et d'identification au Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Par cet acte, le pécheur renaît à une vie nouvelle. Pour conclure ces réflexions, je voudrais vous encourager à relire dans votre Bible les 11 premiers versets du chapitre 6 de la lettre aux Romains et cette remarque en 1 Pierre chapitre 3 et verset 21 où l'apôtre rappelle que le baptême n'est pas un bain qui lave le corps. Il nous sauve en vertu de la résurrection du Christ dans la mesure où il constitue de la part du baptisé l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu.